Lucien, qui se trouvait là comme un embryon, avait admiré le livre de Nathan. Il révérait l'auteur à l'égal d'un dieu, et il fut stupide d'autant de lâcheté devant ce critique dont le nom et la portée lui étaient inconnus. « Mon conduirai-je jamais ainsi? Faut-il donc abdiquer sa dignité ?» se dit-il. « Mets donc ton chapeau, Nathan. Tu as fait un beau livre et la critique n'a fait qu'un article. » Ses pensées lui fouettaient le sang dans les veines. Il apercevait, de moment en moment, des jeunes gens, des auteurs besogneux qui demandaient à parler à Doria. Mais qui, voyant la boutique pleine, désespérait d'avoir audience et disait en sortant « Je reviendrai ». Deux ou trois hommes politiques causaient de la convocation des chambres et des affaires publiques au milieu d'un groupe composé de célébrités politiques. Le journal hebdomadaire duquel traitait Doria avait le droit de parler politique. Dans ce temps, les tribunes de papier timbré devenaient rares. Un journal était un privilège aussi connu que celui d'un théâtre. Un des actionnaires les plus influents du constitutionnel se trouvait au milieu du groupe politique. Lousteau s'acquittait à merveille de son office de cicérone. Aussi, de phrase en phrase, Doria grandissait-il dans l'esprit de Lucien qui voyait la politique et la littérature convergeant dans cette boutique. À l'aspect d'un poète éminent et prostituant la muse à un journaliste, et humiliant l'art comme la femme était humiliée, prostituée sous ses galeries ignobles, le grand homme de province recevait des enseignements terribles. L'argent était le mot de toute énigme. Lucien se sentait seul, inconnu, rattaché par le fil d'une amitié douteuse au succès et à la fortune. Il accusait ses tendres, ses vrais amis du Cénacle de lui avoir peint le monde sous de fausses couleurs, de l'avoir empêché de se jeter dans cette mêlée, sa plume à la main. « Je serais déjà blondé !» s'écria-t-il en lui-même. Lousteau, qui venait de crier sur les sommets du Luxembourg comme un aigle blessé, qui lui avait paru si grand, n'eut plus alors que des proportions minimes. Là, le libraire fashionable, le moyen de toutes ses existences, lui parait être l'homme important. Le poète ressentit, son manuscrit à la main, une trépidation qui ressemblait à de la peur. Au milieu de cette boutique, sur des piédestaux de bois peints en marbre, il vit des bustes, celui de Byron, celui de Goethe et celui de Monsieur de Canalis, de qui Doria espérait obtenir un volume, et qui, le jour où il vint dans cette boutique, avait pu mesurer la hauteur à laquelle le mettait la librairie. Involontairement, Lucien perdait de sa propre valeur, son courage faiblissait. Il entrevoyait quelle était l'influence de ce Doria sur sa destinée, et il en attendait impatiemment l'apparition. « Eh bien, mes enfants !» dit un petit homme gros et gras à figure assez semblable à celle d'un proconsul romain, mais adouci par un air de bonhomie auquel se prenaient les gens superficiels. « Me voilà propriétaire du seul journal hebdomadaire qui peut être acheté et qui a 2000 abonnés. Farceur, le timbre en a que 700 et c'est déjà bien joli. » dit Blondet. Ma parole d'honneur la plus sacrée, il y en a 1200. J'ai dit 2000, ajouta-t-il à voix basse, à cause des papetiers et des imprimeurs qui sont là. Je te croyais plus de tact, mon petit, reprit-il à haute voix. Prenez-vous des associés? Demanda Finou. C'est selon, dit Doria. Veux-tu d'un tiers pour 40 000 francs? Ça va, si vous acceptez pour rédacteur Émile Blondet que voici, Claude Vignon, Scribe, Théodore Leclerc, Félicien Vernou, G, Jouy, Lousteau. Et pourquoi pas Lucien de Rubempré ? Dit hardiment le poète de province en interrompant Finot. Et Nathan ? Dit Finot en terminant. Et pourquoi pas les gens qui se promènent ? Dit le libraire en fronçant le sourcil et se tournant vers l'auteur des Marguerites. À qui ai-je l'honneur de parler ? Dit-il en regardant Lucien d'un air impertinent. Un moment, Doria, répondit Lousteau. « C'est moi qui vous amène, monsieur. Pendant que Finot réfléchit à votre proposition, écoutez-moi. » Lucien eut sa chemise mouillée dans le dos en voyant l'air froid et mécontent de ce redoutable vizir de la librairie, qui tutoyait Finot, quoique Finot le dit vous, qui appelait le redouté Blondet « mon petit », qui avait tendu royalement sa main à Nathan en lui faisant un signe de familiarité. « Une nouvelle affaire, mon petit ?» s'écria Doria. « Mais tu le sais, j'ai 1100 manuscrits !»« Oui, messieurs » cria-t-il. On m'a offert 1100 manuscrits, demandez à Gabusson. Enfin, j'aurais bien besoin d'une administration pour régir le dépôt des manuscrits, un bureau de lecture pour les examiner. Il y aura des stances pour voter sur leur mérite avec des jetons de présence, et un secrétaire perpétuel pour me présenter des rapports. Ce sera la succursale de l'Académie française, et les académiciens seront mieux payés aux galeries de bois qu'à l'Institut. C'est une idée, dit Blondet. Une mauvaise idée, reprit Doria. Mon affaire n'est pas de procéder au dépouillement des élucubrations de ceux d'entre vous qui se mettent littérateurs quand ils ne peuvent être ni capitalistes, ni bottiers, ni caporaux, ni domestiques, ni administrateurs, ni huissiers. On n'entre ici qu'avec une réputation faite. Devenez célèbre et vous y trouverez les flots d'or. Voilà trois grands hommes de ma façon, j'ai fait trois ingrats. Nathan parle de 6000 francs pour la seconde édition de son livre, qui m'a coûté 3000 francs d'article et ne m'a pas rapporté 1000 francs. Les deux articles de Blondet, je les ai payés 1000 francs et un dîner de 500 francs. Mais monsieur, si tous les libraires disent ce que vous dites, comment peut-on publier un premier livre? Demanda Lucien, aux yeux de qui Blondet perdit énormément de valeur quand il apprit le chiffre auquel Dorian devait les articles des débats. Cela ne me regarde pas, dit Dorian en plongeant un regard assassin sur le beau Lucien qui le regarda d'un air agréable. Moi, je ne m'amuse pas à publier un livre, à risquer 2000 francs pour en gagner 2000. Je fais des spéculations en littérature. Je publie 40 volumes à 10 000 exemplaires, comme font Pankouk et les Baudouins. Ma puissance et les articles que j'obtiens poussent une affaire de 100 000 écus au lieu de pousser un volume de 2000 francs. Il faut autant de peine pour faire prendre un nom nouveau, un auteur et son livre, que pour faire réussir les théâtres étrangers, Victoires et Conquêtes ou les Mémoires sur la Révolution qui sont une fortune. Je ne suis pas ici pour être le marchepied des gloires à venir, mais pour gagner de l'argent et pour en donner aux hommes célèbres. Le manuscrit que j'achète 100 000 francs est moins cher que celui dont l'auteur inconnu me demande 600 francs. Si je ne suis pas tout à fait un mécène, j'ai droit à la reconnaissance de la littérature. J'ai déjà fait hausser de plus du double le prix des manuscrits. Je vous donne ces raisons parce que vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit, dit Doria au poète en le frappant sur l'épaule par un geste d'une révoltante familiarité. Si je causais avec tous les auteurs qui veulent que je sois leur éditeur, il faudrait fermer ma boutique car je passerais mon temps en conversation extrêmement agréable, mais beaucoup trop cher. Je ne suis pas encore assez riche pour écouter les monologues de chaque amour propre. Ça ne se voit qu'au théâtre, dans les tragédies classiques. Le luxe de la toilette de ce terrible Doria appuyait, aux yeux du poète de province, ce discours cruellement logique. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » dit-il à Lousteau. « Un magnifique volume de verre. » En entendant ce mot, Doria se tourna vers Gabusson par un mouvement digne de Talma. « Gabusson, mon ami, à compter d'aujourd'hui, quiconque viendra ici pour me proposer des manuscrits ? Entendez-vous ça, vous autres ? » dit-il en s'adressant à trois commis qui sortirent de dessous les piles de livres à la voix colérique de leur patron qui regardait ses ongles et sa main qu'il avait belle. « À quiconque m'apportera les manuscrits, vous demanderez si c'est des vers ou de la prose. En cas de vers, congédiez-le aussitôt. Les vers dévoreront la librairie. »« Bravo, il a bien dit cela, Doria !» crièrent les journalistes. « C'est vrai !» s'écria le libraire en arpentant sa boutique, le manuscrit de Lucien à la main. « Vous ne connaissez pas, messieurs, le mal que les succès de Lord Byron, de Lamartine, de Victor Hugo, de Casimir de Lavigne, de Canalis et de Béranger ont produit. Leur gloire nous vaut une invasion de barbares. Je suis sûr qu'il y a dans ce moment en librairie 1000 volumes de vers proposés qui commencent par des histoires interrompues et sans queue ni tête, à l'imitation du corsaire et de Lara. Sous prétexte d'originalité, les jeunes gens se livrent à des strophes incompréhensibles, à des poèmes descriptifs où la jeune école se croit nouvelle en inventant de l'île. Depuis 2 ans, les poètes ont pullulé comme les hannetons. J'y ai perdu 20 000 francs l'année dernière. Demandez à Gabusson. Il peut y avoir dans le monde des poètes immortels. Je connais de Rose et de Frey qui ne se font pas encore la barbe, dit-il à Lucien. Mais en librairie, jeune homme, il n'y a que 4 poètes. Béranger, Casimir de Lavigne, Lamartine et Victor Hugo. Car Canalis, c'est un poète fait à coups d'articles. Lucien ne se sentit pas le courage de se redresser et de faire de la fierté devant ces hommes influents qui riaient de bon cœur. Il comprit qu'il serait perdu de ridicule, mais il éprouvait une démangeaison violente de sauter à la gorge du libraire, de lui déranger l'insultante harmonie de son nœud de cravate, de briser la chaîne d'or qui brillait sur sa poitrine, de fouler sa montre et de le déchirer. L'amour-propre, irrité, ouvrit la porte à la vengeance. Il jura une haine mortelle à ce libraire auquel il souriait. La poésie est comme le soleil qui fait pousser les forêts éternelles et qui engendre le cousin, les moucherons, les moustiques, dit Blondet. Il n'y a pas une vertu qui ne soit doublée d'un vice. La littérature engendre bien les libraires. Et les journalistes, dit Lousteau. Doria partit d'un éclat de rire. Qu'est-ce que ça enfin ? Dit-il en montrant le manuscrit. Un recueil de sonnets à faire honte à Pétrarque, dit Lousteau. Comment l'entends-tu ? Demanda Doria. Comme tout le monde. Dit Lousteau qui vit un sourire fin sur toutes les lèvres. Lucien ne pouvait se fâcher, mais il suait dans son harnais. Eh bien, je le lirai, dit Doria en faisant un geste royal qui montrait toute l'étendue de cette concession. Si tes sonnets sont à la hauteur du 19e siècle, je ferai de toi, mon petit, un grand poète. S'il a autant d'esprit qu'il est beau, vous ne courrez pas de grands risques, dit un des plus fameux orateurs de la Chambre qui causait avec un des rédacteurs du Constitutionnel et le directeur de la Minerve. Général, dit Doria, la gloire, c'est 12 000 francs d'artiste et 1 000 écus de dîner. Demandez à l'auteur du solitaire. Si monsieur Benjamin Constant veut faire un article sur ce jeune poète, je ne serai pas longtemps à conclure l'affaire. Au mot de général, et en entendant nommer l'illustre Benjamin Constant, la boutique prit aux yeux du grand homme de province les proportions de l'Olympe. Lousteau, j'ai à te parler, dit Finot. Mais je te retrouverai au théâtre. Doria, je fais l'affaire, mais à des conditions. Entrons dans votre cabinet. Viens, mon petit, dit Doria en laissant passer Finot devant lui et faisant un geste d'homme occupé à 10 personnes qui attendaient. Il allait disparaître quand Lucien, impatient, l'arrêta. Vous gardez mon manuscrit. À quand la réponse? Mais, mon petit poète, reviens ici dans 3 ou 4 jours, nous verrons.